Europe accueille une conférence sur l'image et nous.
Quelle est notre relation à l'image? Quelles histoires nous raconte-t-elle? Comment expliquer le succès toujours grandissant de la pub, alors même qu'elle est toujours plus envahissante dans notre quotidien? C'est à ces interrogations que la conférence organisée par la Bibliothèque universitaire de Gap tentera de répondre. En partenariat avec de nombreuses associations du territoire gapensé, elle a lancé ce lundi 20 avril la semaine des livres et vous, en proposant une conférence sur l'image. Gabriel Carnavalet-Mauzan, médiateur culturel, a apporté un éclairage insoupçonné sur ces images, tantôt fascinantes, tantôt effrayantes. À l'issue de la conférence, l'intervenant a répondu aux questions de Gilles Rey.
Gabriel Carnavalet-Mauzan, vous êtes médiateur culturel et vous venez de nous parler de l'image. Et l'image, bien semble-t-il, cache de nombreux messages.
Oui, ben les images, je crois qu'il faut reprendre le temps de les regarder calmement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a cette boulimie du regard qui fait qu'on consomme de l'image sans la déguster, tout simplement. Et je crois qu'on, si on prenait un peu plus le temps d'être devant les images et d'échanger devant les images, on aurait une vie sociale certainement plus cohérente.
Alors, vous nous avez rappelé aussi que l'image est une absence d'objet.
Ben oui, c'est la première chose. Alors, c'est vrai que ça surprend quand je présente la pipe de Magritte, hein, où il nous fait la grâce de nous dire que ceci n'est pas une pipe. Et effectivement, alors, il y en a que ça énerve, et puis en définitive, il y a vraiment besoin d'être conscient que une image, c'est l'absence de l'objet avant toute chose. Hein, c'est essentiel, ça.
La toute première pub, j'ai été fort surpris.
La première pub, les tables de la loi brandies par Moïse, mais j'en connais pas d'antérieure, hein. C'est la première publicité, effectivement.
Alors, le pouvoir et l'image, le pouvoir de l'image.
Le pouvoir et l'image, à savoir que le pouvoir, quel qu'il soit, revendique toujours l'image. Il la veut pour lui. Hein. Donc on l'a vu à travers l'image religieuse, à l'époque où la religion était dominante. On l'a vu aussi à travers la royauté, n'est-ce pas, hein, qui revendique aussi sa place, voire l'empereur. Et on le voit aujourd'hui avec le système marchand et commerçant, où on se perd dans les objets, comme si on était nous-mêmes des objets, ou qu'il fallait qu'on ait absolument des objets pour pouvoir exister.
Est-ce qu'à l'inverse, on peut dire l'image et EST, le pouvoir?
Je pense que ça doit pouvoir se décliner de plein de façons, mais c'est justement la richesse de l'image, c'est qu'est-ce qu'elle nous donne à voir, qu'est-ce qu'elle nous donne à voir, qui donne à voir et qui dit ce qu'il y a à voir en définitive. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on aborde chaque fois qu'on est face à une image. C'est prendre de la distance déjà au départ et puis prendre le temps de rentrer dedans et savoir qu'est-ce qu'elle veut bien nous raconter. Parce qu'elle peut être subversive aussi, ou elle peut être doctrinale ou séduisante ou...
En tout cas, elle est parfois complexe, la latrie, doulie, hyperdoulie.
L'idolâtrie qu'on a dans l'idolâtrie, tout simplement. Hein, vénérer l'image comme une divinité, la prenant pour une divinité. Donc on voit bien que ces enjeux-là, ben, ils n'ont pas changé. J'y faisais allusion pour la période des querelles byzantines, mais on a bien vu au mois de janvier que les images tuent comme elles ont tué. Et c'est pas forcément les mêmes. Mais quel rapport on entretient, nous occidentaux, par rapport aux autres civilisations? Est-ce que c'est nous qui avons des leçons à donner? Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu de ça. On a pris un peu l'habitude d'être représentatif de la terre entière, hein, de se l'approprier aussi avec toutes les campagnes coloniales, et certainement un mépris auprès de populations qui aujourd'hui commencent à en avoir un peu plus que marre, qui l'expriment peut-être pas comme on le souhaite, mais c'est un retour de boomerang très violent qui passe comme par hasard à travers les images. Et par les images.
La symbolique de la tour de Babel et des Twin Towers.
Mmh. Ben oui, c'est le discours doctrinal. Hein. C'est tour de Babel, faire en sorte que les hommes ne parlent plus la même langue, hein, et ne s'élèvent plus de cette façon scandaleuse. Et les tours américaines, c'est bien le doigt de Dieu qui vient percuter le monde de la finance, qui est univoque et qui parle d'une seule langue. Hein. Donc symboliquement, je ne parle pas des milliers de morts bien sûr, mais symboliquement le discours est exactement, c'est une réactualisation du discours biblique pile poil quoi.
Vous nous avez parlé également de piège à regard, j'ai bien aimé l'expression piège à regard.
Oui, alors il doit exister certainement des pièges à regard très différents. Je n'ai pas du tout travaillé sur les couleurs, les associations de couleurs qui doivent certainement fonctionner. Moi, j'ai juste présenté la construction d'une image type, donc à travers des barres de rythme et cette fameuse mandorle, donc cette forme d'amande, qui vient circonscrire une déité ou en tout cas quelque chose d'essentiel qui se trouve à l'intérieur. Et un des pièges à regard, c'est cette association des barres de rythme et des mandorles, ou simplement des barres de rythme, qui font que la répétition du même donne du sens. Et l'œil vient se reposer là, s'apaiser, parce qu'il est généralement toujours tendu. Et là, il peut enfin se reposer. Alors c'est sûr qu'on finit par se reposer. Alors aujourd'hui, ce sera sur des publicités. Et l'œil viendra se reposer dessus avant de lire même le texte. Hein. Donc ça fait pour n'importe quel produit aussi. Hein.
On vous retrouve sur un site internet ?
On me retrouve sur Maison Usher. U-S-H-E-R. C'est une association qui s'occupe de médiation culturelle.